Bonjour à tous. Nous sommes ici non pas pour une cérémonie de clôture, mais pour vous présenter quelques réflexions, disons, pour terminer, que nous vous présenterons avec Leslie Kaplan et puis Daniel Cohen. Mais avant de présenter ces quelques réflexions, je vais d'abord donner la parole à ceux qui nous ont accueillis ici pendant ces 3 jours, et donc d'abord à Michel Laurier, le directeur de l'AMC2.
Merci Pierre. Eh bien écoutez, je voudrais d'abord vous remercier, remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir consacré ce temps relativement long dans une société de l'image pour cette réflexion salutaire. On a accueilli un peu plus de 10 000 entrées sur ces 3 jours, ce qui est formidable. Ce qui est formidable, ce qui n'était pas forcément gagné quand on a pris avec Pierre le pari d'installer ce forum sur un week-end un petit peu long, mais qui était très bien pour le temps qui était nécessaire à développer l'ensemble de ces problématiques. Alors je voudrais évidemment remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont soutenus, le Dauphiné Libéré particulièrement parce qu'il a fait une très grosse couverture de cette manifestation, le Nouvel Observateur, Le Monde, France Inter, France Culture, et puis l'Institut d'études politiques Sciences Po, qui a évidemment beaucoup travaillé également sur ce forum. Je veux remercier évidemment tout particulièrement Pierre Rosanvallon et toute l'équipe de La République des idées et de La Vie des idées. Et l'ensemble des intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir à Grenoble. Je voulais dire à Pierre que je tiens beaucoup à cette collaboration parce qu'ensemble, on a commencé en 2006 un travail de rénovation du débat d'idées qui est formidable dans cette ville qui a une longue histoire forte avec ce concept citoyen. Et je crois que si Pierre n'avait pas été là, on n'aurait jamais pu aller aussi loin dans ce registre-là. Je tiens à saluer aussi la façon dont il a mené la conception de ce forum, puisque le fait de mettre en jeu l'ensemble des possibilités de débat, que ce soit des conférences, des tables rondes, le café des auteurs, les laboratoires démocratiques, etc., fait qu'on a eu une atmosphère de travail à la fois profonde, sérieuse, studieuse, et puis une certaine forme aussi de légèreté et de bien-être qui était évidemment également essentielle pendant ces 3 journées. Vous me permettrez de remercier tout particulièrement l'équipe de l'AMC2 qui a fait... une fois de plus un travail formidable au terme presque d'une saison particulièrement riche et qui va bien au-delà des compétences de chacune et chacun d'entre eux, parce que ce que je tiens à saluer et qui fait vraiment l'esprit de cette manifestation, c'est aussi leur engagement personnel dans ce type d'aventure. Voilà, merci à vous tous. Ce que je voudrais dire également, c'est que la crise a mis en lumière la nécessité des politiques publiques qui soutiennent évidemment la vie démocratique de ce pays. Cette maison en est un symbole à sa place, une petite pierre nécessaire. Et le fait qu'elle puisse encore faire ça témoigne de l'ambition de ceux qui la soutiennent. Et je veux évidemment remercier toute l'équipe. Vous savez, les forums que nous organisons, c'est un alliage assez unique et assez formidable entre l'équipe de la maison et l'équipe qui entoure Michel Destot, qui nous donne vraiment un très très gros coup de main sur l'organisation de ces journées. En particulier, je voudrais saluer Marine Alix. Et puis, si nous avons pu le faire, c'est parce que cette impulsion a tout de suite reçu l'aval et le soutien et de Michel Destot et de Bernard Soulages, que je tiens vraiment à remercier très sincèrement et auquel je vais maintenant passer la parole.
Bien, merci Michel. À mon tour de me réjouir pour ce qui est vraiment un très très grand succès, cette rencontre de la démocratie et de la citoyenneté ici à Grenoble. Je pense que c'était un choix opportun. de parler de démocratie en période de crise. Nous le savons, quand on regarde le XXe siècle, qui a été un siècle de crise liée à l'économie ou au problème de la décolonisation, et qui s'est soldé par deux guerres mondiales et quatre génocides. Généralement, dans ces périodes, ça n'est pas toujours très porteur ou très propice aux dynamiques démocratiques. Et il me semblait particulièrement opportun de parler de démocratie à un moment où nous-mêmes, aujourd'hui, en France et dans le monde, nous sommes secoués par des crises. Ici même, à Grenoble, nous le voyons bien, Caterpillar sur le plan économique, l'Université de Grenoble sont secoués par ce qu'il faut bien reconnaître être des dysfonctionnements de notre société, où le dialogue social est bien loin de ce qu'il devrait être en période actuelle. Et puis, c'est une rencontre qui me semble utile, parce qu'elle permet d'éclairer les voies de l'espoir, les voies de l'avenir, dans une société que nous savons extrêmement complexe, mondialisée, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse de l'environnement, du climat, qu'il s'agisse des problèmes de solidarité dans nos pays ou dans les rapports entre le Nord et le Sud. Alors, un grand merci. Un grand merci d'avoir fait le choix de Grenoble, bah, simplement parce que ça flatte notre ego personnel, Grenoble, laboratoire d'idées, laboratoire social ou sociétal, mais parce que d'une certaine façon, en tout cas c'est ce que j'y ai vu, c'est tout de même un petit peu la reconnaissance du fait urbain. Aujourd'hui, dans cette construction du XXIe siècle, où nous le savons, comme disait Abdou Diouf, le XXIe siècle sera le siècle de l'urbain ou ne sera pas, les villes, c'est-à-dire les collectivités de proximité, se doivent d'inventer les voies de l'avenir sur l'ensemble des questions que je citais tout à l'heure. Nous le savons, c'est même l'histoire de l'humanité, l'histoire des civilisations, d'Athènes, en passant évidemment par Rome, Paris, New York, San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Bruges, Londres peut-être aujourd'hui, c'est toujours autour des villes que se sont focalisées les préoccupations sociales et sociétales et souvent les difficultés, mais aussi les préconisations, mais aussi les expérimentations, mais aussi les innovations qui sont source de politiques sociales, environnementales, culturelles, citoyennes, économiques pour demain. J'en aurai terminé en remerciant à mon tour tous ceux qui ont été les acteurs de cette rencontre merveilleuse. Bien entendu, la Maison de la Culture, Michel Aurier et son équipe, bien entendu, Sciences Po qui a porté son concours ici sur place, la région Rhône-Alpes avec Bernard Soulages pour le concours financier qui a bien voulu nous apporter. Et puis permettez-moi de dire aussi mon équipe, c'est-à-dire l'équipe de la ville à travers la communication, à travers le protocole, à travers les services techniques qui ont apporté leur concours. Je citerai simplement deux noms, Marine et Thomas, et à travers eux, ils se reconnaîtront toute cette équipe. Mes derniers mots, c'est évidemment pour la République des idées, pour Pierre-Rosan Vallon. Merci d'avoir fait le choix de Grenoble. Merci d'avoir fait surtout le parti pris de l'intelligence, de l'amitié et de la fidélité.
Bien, je vais m'associer évidemment aux remerciements, sans reprendre la liste qu'a fait Michel Aurier, mais en se la rappelant tous, parce qu'un succès comme celui-là, c'est dû à beaucoup de gens. Et il faut les remercier tous collectivement. Je voudrais juste dire un mot sur le fond de nos débats. Et je suis toujours frappé quand nous avions pris le pari, vous l'avez là, peut-être vous ne le voyez pas très bien, le logo de mettre en dessous de Rhône-Alpes la citoyenne. Je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était bien ambitieux. Et en même temps, peut-être l'idée quand même qu'au fond, la question de la citoyenneté, la question démocratique, est la première de toutes. Celle qui transforme les politiques, celle qui nous permet vraiment d'avancer. Et j'ai été frappé dans tous les débats que j'ai suivis, qu'on ait parlé d'économie, de social ou d'urbanisme, de la richesse de la question démocratique pour traiter de ces questions. Nous, hier, nous débattions, je prendrai un seul exemple, des questions de gouvernance économique mondiale. Eh bien, au fond, on le voit sur des questions aussi majeures que les paradis fiscaux, par exemple. C'est pas simplement une question économique, c'est d'abord une question politique et elle se traite à partir des enjeux de la démocratie et de la transparence qui va avec. Donc, merci du thème parce qu'il traduit tout cela. Et puis, je terminerai simplement sur trois souhaits très rapides. Le premier, je le dis à tous les intervenants en les remerciant. d'une certaine façon, nous ne dialoguons pas assez ensemble encore entre élus, responsables et les intellectuels, tous ceux qui sont là, les intellectuels au sens large du terme, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. On le fait beaucoup avec des gens comme toi, Pierre, avec Loïc Blondeau, avec plein de gens. Vous êtes chaque fois disponible quand nous avons fait des opérations en Rhône-Alpes sur la démocratie, sur la prospective. Merci. Mais il faut encore le faire plus dans ces périodes. Le dialogue entre nous est exigeant et nous aussi, nous devons être peut-être plus disponibles. Le deuxième souhait, c'est évidemment qu'il y ait un prolongement à cela. Je pense, comme Michel, comme les deux Michel, que ici, c'est instaurer quelque chose d'essentiel, peut-être une biennale, peut-être quelque chose qu'il ne faut pas renouveler trop souvent, mais qui en même temps marque véritablement des étapes dans ce processus de réflexion. En tout cas, nous en serons le partenaire évident si l'occasion s'en représente et nous le souhaitons. Et puis enfin, tu me permettras, Pierre, de le dire avec un peu d'émotion personnelle. Je souhaite vraiment que tu puisses continuer. On se connaît depuis très, 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 très longtemps. Tu as eu la gentillesse de nous faire signe, à Michel et à moi, pour venir ici à Grenoble. Je pense que nous avons avec Pierre, et je le dis devant beaucoup de gens, avec l'émotion qui va avec, l'exemple même d'un intellectuel qui intervient en toute liberté, mais qui nous apporte, avec la République des idées, avec des équipes, à la fois le renouvellement des hommes, des femmes, mais aussi des idées et l'interrogation. En tout cas, merci à toi Pierre, merci à tous ceux que tu convaincs de venir ici, parce que c'est pour nous absolument fondamental dans ces périodes. Merci.
Venez. Bon, nous allons donc maintenant commencer ce qui n'aurait jamais dû s'appeler séance de clôture, non, absolument atroce, et que je propose de rebaptiser panier repas. Donc voilà, nous allons mettre dans votre panier repas un certain nombre de petites réflexions qui vont vous permettre de continuer à méditer, à digérer tout ce que nous avons dit pendant ces 3 jours. Alors je vais donner d'abord la parole, nous parlerons, soyez certains, nous ne faisons pas de discours, c'est simplement des notes, nous allons dire un petit peu les notes que nous avons prises au cours, très rapidement, au cours de ces 3 journées. Et je commence, nous avons des regards différents, parce que Leslie Kaplan est romancière, Daniel est économiste, moi je suis dans une situation intermédiaire, un peu historien, un peu philosophe, et donc ce sont 3 regards, disons, et 3 séries de notes sur les 3 jours du colloque que nous vous proposons. Donc la parole est à Leslie.
Merci. Merci à tous d'être là. Et moi, je voudrais remercier d'abord Pierre Ozanvallon et toute l'équipe de la République des idées de m'avoir invité à suivre ces journées. Pour moi, c'était une première. Ça m'a complètement passionnée, totalement dépassée, bien sûr, parce qu'il y avait des choses très, très diverses et tout le temps. Et je voudrais essayer de rendre compte un peu de mon sentiment au cours de ces journées, en précisant que j'ai absolument pas pu tout voir et entendre, donc ce sera vraiment très partiel, des détails, et puis après j'essaierai de parler un petit peu de comment ça m'importe en tant qu'écrivain la question de réinventer la démocratie. Alors en fait, je voudrais commencer un peu au milieu par la chance d'avoir pu entendre Claude Lefort, qui est vraiment une figure extrêmement forte et émouvante. Bon, ça m'a énormément appris et touché. Bon, comment il nous a montré ce que c'est que penser, bon, vraiment penser en acte, penser avec passion. En nous parlant à la fois de la démocratie dans les villes, de ce que c'est qu'évidemment cette forme, la démocratie où il y a personne ne peut occuper la place du pouvoir, bon, même si, comme on lui a dit, il y a beaucoup de candidats, bon, et aussi l'évocation du totalitarisme et le fait qu'il a terminé sur le rappel de ce qu'a été mai 68 comme moment extraordinaire, comme prise de la parole dans tous les sens, comme prise de parole vraiment tellement diverse et créatrice. Pour moi, ça a été vraiment très très important, parce que d'ailleurs je considère que en un sens j'ai commencé à écrire finalement en m'appuyant sur ce que pouvait être ou mai 68 ou la pensée de 68. Et justement après, le lendemain, alors là aussi c'était quand même étonnant, au moment de la table ronde sur l'éducation, il y a un jeune homme qui s'est levé et qui a demandé la parole justement pour parler de la ronde des obstinés qui a lieu depuis 3 semaines à Grenoble. Et ce qui était, à part le fait de tout ce qu'il racontait sur cette ronde des obstinés, ce qui était aussi frappant, c'est qu'il s'est appuyé pour faire ça sur les mots que lui-même avait entendus la veille, les mots de Claude Lefort, sur la peur qu'il n'y ait plus la question des conflits au centre vraiment de l'action, bon, donc que ça disparaisse, et sur la question de se laisser modeler. Et lui, il a repris ça, et on voyait vraiment ce que pouvait être une transmission en direct. Et comme toujours, quand il s'agit de transmission, je trouve que c'était très, bon, très fort, très émouvant. Bon, alors puisque je parle de la prise de parole, je voulais aussi dire qu'une des choses qui pour moi a été un temps vraiment fort, c'est ce qui s'est passé dans la salle au moment de, enfin en fait après la table ronde sur la question de la place des immigrés, nation ouverte, nation fermée, et où il y a eu un certain nombre de personnes, bon, qui ont pris la parole, donc des gens bien sûr que je ne peux pas nommer puisque c'était des gens de la salle. Il y a eu un inspecteur du travail qui a parlé de la lutte d'un certain nombre d'inspecteurs du travail contre l'embrigadement de l'inspection du travail dans la traque, comme il a dit, des clandestins. Bon, et ça, je trouvais ça vraiment remarquable. Et à part ça, ils ont réussi à gagner à un certain niveau. Bon, même si ça continue, il y a eu un étudiant qui a pris la parole en disant « nous, la gauche », et en posant la question à nous, la gauche, sur le droit de vote des immigrés, bon, et en rappelant la malheureuse parole sur toute la misère du monde. Il y a eu une étudiante très jeune, ou probablement même en fait lycéenne, qui a parlé des manuels scolaires, et elle a dit une chose, et sur la question de l'immigration, et elle a dit une chose très simple, une phrase très simple, elle a dit, alors donc en parlant de l'immigration, je n'aurais jamais su si je n'étais pas venue là aujourd'hui, enfin donc pendant les débats, ce qu'il en était, c'est-à-dire à s'en tenir au manuel, je n'aurais jamais su. Là, j'ai trouvé ça très fort. Tout de suite après, il y a eu une jeune femme journaliste en Algérie qui a raconté que en fait on peut écoper jusqu'à 2 ans de prison en Tunisie si on part du pays sans permission, clandestinement. Bon, ça c'est assez énorme. Et là aussi, elle a dit une phrase extrêmement simple. Elle a dit : ce sont des gens qui veulent avoir une vie. Bon, ça, j'ai trouvé ça assez magnifique. Bon. Il y a eu aussi un monsieur qui a parlé, juste après, aussi qui parlait au nom d'un syndicat des travailleurs sans papier et qui a demandé des documents pour être informé. Bon, et bon, comme ça, c'était un peu vraiment le déroulement d'un certain nombre de questions par des prises de parole de gens comme ça. Bon, et je trouve que c'était vraiment magnifique. Alors, je voudrais aussi donner quelques-uns des mots, bon, comme je suis écrivain, qui m'ont fait de l'effet pendant ces journées. Encore une fois, je n'ai absolument pas pu tout suivre. D'abord, en fait, c'est un mot vraiment ancien qui vient de la Révolution, mais qui a été cité par Pierre Auzan-Vallon tout au début dans sa conférence inaugurale. Et en fait, je ne connaissais pas cette phrase de Camille Desmoulins qu'il a citée. Il a dit « La démocratie, c'est appeler les choses par leur nom ». Camille Desmoulins. Bon, et pour moi, bon, évidemment, ça résonne très fort. Et en fait, ça m'a fait penser à une phrase de Kafka qui dit « Le mot juste conduit, le mot qui n'est pas juste séduit ». Bon, qui est évidemment une phrase essentielle pour un écrivain, mais de retrouver ça chez Camille Desmoulins, je trouve ça très bien. Bon, et Pierre Auzan-Vallon aussi a dit que la tâche était de compliquer ER, la démocratie. C'est-à-dire, au fond, il donne un verbe à l'infinitif pour marquer le vouloir, le désir. Bon, et moi j'ai trouvé ça, pour marquer la nécessité d'avoir une pensée complexe, j'ai trouvé ça vraiment bon, une bonne phrase. Alors, il y a eu aussi à la table ronde sur les nouvelles utopies, Alain Caillé a rappelé un mot de Castoriadis pour parler de la démesure, bon, liée à la société actuelle, l'illimitation et comment il fallait essayer de lutter contre ça. Et il a aussi rappelé que, bon, autant il faut bien sûr lutter contre la dégradation de la nature, il faut aussi lutter contre la dégradation de la culture. Bon, et bon, je pense que c'est en effet important. Et il faut aussi se demander exactement ce que ça veut dire. J'en parlerai un peu peut-être juste tout à l'heure. Laurence Fontaine, pendant la table ronde sur la crise du capitalisme, a eu un mot qui m'a beaucoup touchée. Elle a dit « Il faut un travail sur le langage. » Et les concepts sont des armes pour arriver à cerner la réalité. Et évidemment, ça c'est une chose bon, à laquelle je crois complètement, que les mots sont nos outils. J'ai assisté à une partie de la table ronde sur l'Afrique et je dois dire que Mamadou Diouf a vraiment, je trouve, dit des choses qui déplaçaient un regard occidental sur l'Afrique, et en particulier évidemment il a insisté sur la question de la nécessité pour les Africains de se prendre en charge, il a dit, y compris dans la guerre, bon, ce qui était donc une façon très forte de marquer le coup et de déplacer le regard. Je trouve ça important. Dans la table ronde sur la démocratie peut-elle s'exporter, Pierre Hassner a insisté sur la question de l'identité, qui est une question justement après tout nouvelle, enfin il y a quelques années, mais tout de même qui a surgi. Et donc c'est un mot important, je trouve. Et en même temps, il en parlait, je trouve, de façon très très juste, en insistant sur le fait qu'on n'avait pas de conception préétablie qui pouvait nous guider et qu'il fallait laisser la surprise, la possibilité de se laisser surprendre par l'événement et pas faire des étapes à l'avance, des penser en termes donc dogmatique, et bon, je trouvais ça très, très intéressant. Alors, dans la table ronde sur la gouvernance mondiale ou démocratie mondiale, il y a bien sûr la description du conflit entre le bien commun et les États, enfin les deux avec des guillemets, et il y a une expression d'Antoine Garapon qui m'a beaucoup plu, quand il a dit qu'il fallait que les institutions aient des dents. Bon, alors je trouvais ça très bien. Et il a aussi dit d'ailleurs que Interpol n'avait aucune dent. Alors, ce qui pour une lectrice de romans policiers, donc j'ai remarqué que j'étais absolument dans le mythe. Et c'était vraiment un scoop de savoir que Interpol n'avait aucune dent. Bon. À la table ronde sur la démocratie en Amérique, j'ai pu assister à l'exposé de Arthur Goldhammer. Et bon, moi, j'ai trouvé parmi toutes les choses qu'il a dites sur les États-Unis en ce moment et en particulier sur Obama, c'était très riche. Il y a eu ce concept qu'il a avancé sur Obama comme boursier, chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Et donc, ça met vraiment l'accent à la fois sur la démocratie et sur la question de l'élite intellectuelle. Enfin, c'était vraiment intéressant. Et enfin, bon, la table ronde sur le travail était vraiment absolument pleine de descriptions, enfin, en tout cas, j'ai trouvé très, très concrètes de situations de travail terribles comme toujours en ce moment. Donc je trouvais que c'était une façon vraiment intéressante par ces descriptions de lutter contre la banalisation dans laquelle on est quand même plus ou moins tous toujours par rapport aux formes moins intéressantes du travail. Et il y a eu une image donnée par François Dubet sur une caissière, enfin en parlant de la taylorisation, sur la caissière à qui, pour faire gagner 3 secondes, on demande en fait d'être une femme à 2 têtes, un peu comme un Janus féminin, c'est-à-dire dans le même mouvement, je dis bien dans le même mouvement, de tendre sa carte de crédit à la personne qui s'en va et de faire un sourire d'accueil à la personne qui arrive. Donc on la crucifie en quelque sorte dans cette double attitude, tout ça bien entendu pour 3 secondes, mais à la fin de la journée, comme chacun sait, ça s'ajoute, etc. etc. Bon. Bon, et donc, en fait, bon, moi, ce que je voulais dire là, en faisant cette description extrêmement partielle de ce que j'ai pu entendre, c'est par éclat et par détail, c'est que, en fait, justement, si on peut en rendre compte, si on peut rendre compte avec des détails comme ça, si il me semble si précis et justement plein, ça montre à quel point bon, la façon d'être, de parler pendant ces journées était vivante, parce que finalement le détail c'est vraiment la marque d'une pensée vivante en acte, et ça je trouvais ça bon, vraiment formidable. Alors voilà, et ça c'est un peu par rapport aux journées que j'ai pu traverser. Je voulais juste ajouter quelques mots sur l'importance de la question de réinventer la démocratie, bon, pour l'écrivain que je suis, en rappelant bien sûr des choses qui ont été dites en particulier par Claude Lefort, qui dit que la démocratie s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de certitude. Et qui dit aussi que c'est la possibilité de finalement d'accepter la division sociale, le conflit, l'hétérogénéité des pensées et des opinions, des mœurs et des opinions. Bon. Et bon, à cet égard, je voudrais dire que bon, la littérature, c'est une forme bien sûr, c'est à part d'un désir de liberté, d'un désir de d'écrire de façon la plus libre possible, mais en même temps, bon, ça veut être un art, c'est-à-dire une recherche, et ça n'est pas n'importe quoi. Donc c'est aussi une recherche de forme, et ça c'est, je crois, quand même bon, justement ça peut correspondre à cette question, enfin correspondre dans un sens de faire penser à toute cette question de réinventer la démocratie. Il me semble que bon, justement dans la recherche de forme, un écrivain peut se confronter à des écueils, des impasses, n'importe quel écrivain, c'est-à-dire qu'il peut utiliser le langage comme un discours, comme quelque chose qui ramène de façon un peu obligatoire l'inconnu au connu, qui essaye de penser en termes de généralité et d'explication, et à ce moment-là, il perd le détail qui est justement le réel. Bon, et ça, c'est bon, donc c'est mauvais. Et un écrivain, le deuxième écueil, c'est il peut finalement rabattre le détail sur une anecdote, c'est-à-dire finalement vider le détail de sa force de réel. Le détail, c'est une condensation de sens, c'est beaucoup de sens en même temps dans un petit morceau de réel, et si on le vide, ça devient quelque chose d'anecdotique et de pas intéressant. Et bon, je pense que à ce moment-là, ce qui se perd, c'est la question de la surprise, la question de l'étonnement qui doit vraiment être au cœur, il me semble, de la recherche d'un écrivain. Bon, je pense que ce qu'il ne faut jamais sous-estimer, disons, c'est la possibilité du cliché, c'est-à-dire le cliché qui est finalement le lieu commun, bon, qui est finalement la pensée déjà rabâchée et surtout qui fait la place à une espèce de confort intellectuel vide. Et ça, je pense qu'on peut toujours être menacé par vraiment ce que moi je pourrais appeler une civilisation du cliché, c'est-à-dire finalement où on se refile des lieux communs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment là. Bon, et on doit tous se demander toujours quels sont les bon, qu'est-ce qui circule en ce moment comme fausse pensée, comme cliché. Et là-dessus, il y a aussi une façon de voir. Bon, c'est un écueil pour un écrivain, mais aussi bien d'ailleurs pour n'importe qui est la tentation, et je crois que c'est lié aussi au cliché, d'avoir le dernier mot. Bon, de vouloir justement clore et fermer la pensée. Et bon, vous savez, il y a la fameuse phrase du but, « je tuerai tout le monde et puis je m'en irai ». Bon, qui est tout de même une chose à laquelle il faut qu'on pense pour justement pas vouloir faire ça. Bon. Il y a aussi ce que dit, tout le monde a lu Alice au Pays des Merveilles, eh bien, il y a la figure du gros œuf Humpty Dumpty qui dit en anglais, bon, « When I use a word, it means just what I mean it to, just what I want it to mean. » Quand j'utilise un mot, il signifie seulement ce que je veux dire, c'est-à-dire évidemment, bon, c'est une chose tout à fait folle, de vouloir réduire le langage, qui est toujours une multitude de sens, à ce qu'on veut dire et ne pas accepter que le langage, qui est toujours adressé, vous échappe aussi. C'est-à-dire à la fois il faut chercher le mot juste et en même temps ne pas vouloir avoir le dernier mot. Donc on est un peu tenu d'essayer de tenir justement ces deux choses. Et il me semble que ça a quand même beaucoup à voir avec, disons, un vrai travail de la culture qui est toujours quelque chose qui se fait au présent. Et qui donc est aussi une façon de revisiter le passé, mais le passé comme laboratoire du présent, ça c'est une expression de Pierre-Rosan Vallon, et aussi, donc aussi de vraiment faire le tour de ce qui peut être des traumas liés à l'histoire, au lieu de les nier, de les dénier. Quand on les nie et quand on les dénie, je pense que ça n'est pas sans rapport avec des formes d'apathie, d'indifférence, de désintérêt que on peut remarquer. Alors bon, il y a eu des travaux là-dessus sur Françoise d'Avoine par exemple sur la guerre de 14-18. Bon, comment on a pu ne pas reconnaître tout ce qu'avaient vécu ces gens, mais évidemment il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, l'extermination, la tentative d'extermination sur les Juifs, il y a eu toutes les horreurs liées à la colonisation, tout ce qui est encore là de la violence dans l'immigration. Je crois que ça, c'est vraiment des choses que bon, n'importe quelle personne qui s'occupe de littérature et de culture en général doit avoir en tête parce que bon, ça produit justement des effets. Et je voudrais tout de même dire un mot de la bêtise et de la fausse culture. Bon, alors parce que souvent tout de même la culture, ça me rappelle une histoire juive, bon, bien connue, Esther et Sarah sont au restaurant et Esther dit à Sarah, oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais, et Sarah lui répond oui, et en plus c'est pas copieux. Bon, alors malheureusement souvent la culture c'est un peu comme ça. Bon, mais ça bien sûr ça n'est pas un vrai travail de la culture qui a à voir avec la question de la pensée, mais les formes que peuvent prendre la fausse culture, les formes de trivialisation de la pensée sont vraiment multiples et à traquer. Et tout ce qui concerne en ce moment une fausse proximité, un faux partage au niveau de malheureusement de ce qui se passe souvent à la télévision, des reality shows, au niveau de la presse écrite, tout l'accent sur les people, etc. Qu'est-ce que c'est? On peut se dire mais on s'en fiche. C'est quand même une façon d'essayer de, au lieu de réellement donner à la culture un rôle de lien dans la société et de redémocratiser la démocratie comme il y a toujours à le faire, hein, parce que c'est quelque chose de permanent. La culture, là, à ce moment-là, brandit des faux rapprochements. On se croit concerné par des questions qui, évidemment, n'ont aucun intérêt et qui simplement rapprochent soi-disant, parce que c'est faux, les gens. Avec le thème « moi aussi je peux aimer ceci, moi aussi je peux aimer cela, moi aussi je suis comme ceci, moi aussi je suis comme cela », mais en fait c'est évidemment faux. Et un grand écrivain du cinéma, malheureusement trop tôt disparu, Serge Danet, disait qu'il faut réinventer la distance, et je pense que ça c'est une chose à réfléchir et que c'est très important. Alors juste pour finir, je vais vous lire un très court texte de Franz Kafka, qui est, pour moi, un héros de la pensée paradoxale. Pensée paradoxale qui est la chose du monde, à mon avis, la plus importante pour un écrivain et aussi pour la démocratie. Dans mes notes, je le retrouve. Voilà. Je me bats. Personne ne le sait. Plus d'un sans doute. C'est inévitable. Mais personne ne le sait. Je remplis mes devoirs quotidiens. On peut me reprocher un peu de distraction, mais pas trop. Naturellement, tout le monde se bat. Mais je me bats plus que d'autres. La plupart des gens se battent comme en dormant. De même qu'on agite la main pour chasser une vision en rêve. Mais moi, je suis sortie des rangs. Et je me bats en faisant un emploi scrupuleux et bien considéré de toutes mes forces. Pourquoi suis-je sortie de cette foule qui est assurément bruyante en soi, mais se montre à cet égard d'un calme étonnant ? Alarmant, il dit. Pourquoi ai-je attiré l'attention sur moi ? Pourquoi suis-je maintenant sur la première liste de l'ennemi ? Je l'ignore. Une autre vie ne me paraissait pas digne d'être vécue. De telles personnes, l'histoire militaire les appelle des natures de soldats. Et pourtant, ce n'est pas cela. Je n'espère pas la victoire et ce n'est pas le combat en tant que tel qui me réjouit. Il me réjouit uniquement en tant qu'il est la seule chose à faire. En tant que tel, il est vrai. Il me donne plus de joie que je ne puis réellement en goûter, plus que je ne puis en donner. Peut-être n'est-ce pas au combat, mais à cette joie que je succomberai.
Daniel, un ou deux rebonds, comme on dit dans certains quotidiens.
Quelques mots d'abord pour remercier Leslie, c'est très beau de l'entendre. Sur la blague des deux vieilles, c'est évidemment, elle est obligée de s'en souvenir, la conclusion du film de Woody Allen, Annie Hall, qui répète cette histoire des deux vieilles qui pensent que la nourriture est épouvantable et qu'en plus les portions sont trop petites. Il disait, c'est à l'image de la vie, elle est dégueulasse et en plus elle est trop courte. Donc c'est ça la contradiction avec laquelle il faut se débattre. Et en écoutant Leslie faire le point, en donnant des éclats de mots et de voix des différentes sessions auxquelles elle a participé, je me disais que le mérite de ces sessions parallèles, c'est là. C'est-à-dire la frustration, c'est qu'on se dit tous, mais j'ai pas pu aller à un tel, tu y as été. Et en réalité, ces sessions parallèles font qu'on a envie de parler de la sienne propre, mais d'entendre les autres. Et du coup, ça fait marcher, justement, cette convivialité par absence, par défaut et par miroir. Donc, je trouve ça très, très beau. Juste un mot pour rebondir sur cette question qu'abordait Claude Lefort, que une démocratie, c'est la dissolution volontaire de nos certitudes. Disons, une démocratie forte, c'est la dissolution volontaire de nos certitudes. Une dissolution faible, c'est justement laisser s'installer l'ère des incertitudes, de les subir. Et on est dans une période de crise. L'ère des incertitudes, c'est le livre de Robert Castel. Je pense qu'on est justement dans cette difficulté. où on voudrait dissoudre des certitudes, mais le propre de la situation où on est aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus, on ne sait plus. Et donc, retrouver des mots communs, des petites pierres comme ça, je trouve que c'est ça que vous nous avez apporté, Leslie. Merci.
Merci, Daniel. Moi, je prolongerai les réflexions dans le même sens. Ce qui me frappe, c'est que cette attention au langage, elle est absolument essentielle aussi dans les sciences sociales, parce que si en littérature, ce qui menace, c'est quand le détail devient cliché et qu'il perd sa densité de sens, ce qui menace les sciences sociales, c'est l'idéologie, c'est-à-dire lorsque l'analyse se ferme tout à fait sur elle-même. Et ça me rappelle une chose très importante, c'est que pendant la Révolution française, à un moment difficile, au début de l'année 1793, Condorcet avait rassemblé un certain nombre d'amis pour fonder un journal qui s'appelait le Journal d'instruction sociale et qui était une réflexion permanente sur le langage de la Révolution. Ils prenaient des grands mots-clés de la Révolution et puis ils les analysaient. Ils essayaient de comprendre justement comment ces mots qui avaient été d'abord lancés dans la démocratie dans la Révolution pour lancer des idées neuves devenaient dans certains cas des espèces de prisons et même dans des cas pires devenaient des actes d'accusation contre d'autres. Et je crois que effectivement, si le danger est celui d'une civilisation du cliché, le danger c'est aussi celui d'une civilisation de l'idéologie. Et au fond, après la langue de bois, n'ayons pas la langue de caoutchouc. Et restons d'une certaine façon toujours attentifs. Et je crois que c'est pour moi, en tout cas personnellement, la leçon de la littérature. Et je suis frappé par le fait qu'un certain nombre des plus grands philosophes contemporains, je pense par exemple à l'américaine Martha Nussbaum, ont écrit beaucoup sur le rapport de la littérature et de la philosophie. Et un grand philosophe autrichien, comme devenu anglais, Wittgenstein, insistait aussi sur le fait que la vraie philosophie, c'était comme en littérature, l'attention aux véritables choses à ras du sol. Ça, je crois que c'est très important. Et donc, merci vraiment, Leslie, de nous avoir apporté ce point de vue. Maintenant, on va passer au langage de l'économisme. Et Daniel a su nous montrer qu'il lisait aussi, qu'il connaissait aussi Woody Allen. Donc, c'est un économiste cultivé qui va s'exprimer devant nous.
Ce critère-là, il y a beaucoup d'économistes cultivés. Ça va, si c'est ça le test, si c'est ça l'idée que tu as d'un économiste cultivé. Ça en dit long sur le regard qu'on porte sur notre profession, mais merci quand même. Merci quand même de ce compliment. Non, mais merci à Pierre, merci à toute l'équipe qui a organisé ce colloque, cette conférence, ces journées. Je crois qu'il y a, il y a manifestement une grande satisfaction. On la croise dans les couloirs. Le plaisir, le bonheur qu'ont les gens de parler de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé, montre bien que d'abord la journée elle-même, les journées elles-mêmes sont réussies et surtout que ça correspondait à une attente. Et l'attente, c'est tout simplement de résoudre cette contradiction entre certitude et incertitude, c'est-à-dire être capable de trouver, de se rencontrer pour parler ensemble de cette période, de cette situation dans laquelle on ne se comprend plus, on ne se comprend plus collectivement et on ne sait pas comment faire pour retrouver justement une intelligence collective au moment où les institutions classiques chargées de le faire sont malgré tout, on peut le dire, en panne. Alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans ces journées. Je n'ai pas pu non plus assister à tout, évidemment, par définition, mais il y a deux ou trois points qui m'ont paru très, très importants, très intéressants, est venu d'éclairages très, très lointains les uns des autres. D'abord, on a eu un débat sur la Chine, sur la transition démocratique en Chine, et ce qui était vraiment très intéressant, parce que ça jetait aussi un regard sur le fonctionnement de notre démocratie, c'était cette idée que la démocratie en Chine n'était évidemment pas au niveau des standards qu'on est en droit d'exiger dans une démocratie tout court, ou une démocratie, disons, comme celle de la France, mais que pourtant l'idée démocratique était là, qu'elle fonctionnait très lentement, silencieusement, qu'elle traversait le granit, on va dire, du régime politique, par des avocats qui, on appelle maintenant des avocats aux pieds nus, qui prennent au sérieux les textes juridiques, constitutionnels, essayent de les opposer aux autorités, au risque d'ailleurs d'aller en prison eux-mêmes. Démocratie qui s'invente aussi aussi grâce à Internet. 50 000 blogs, nous a-t-on dit hier, sont en usage. Et aussi au niveau les plus élémentaires, dans les villages où on élit, on apparemment au moins une fois sur deux des représentants qui ne sont pas ceux qui ont été désignés par le parti. Et en écoutant ça, on se dit que voilà, le travail de la démocratie, c'est d'abord la démocratie elle-même qui produit sa logique propre. Et je crois qu'on peut être tous à peu près d'accord ici, en tout cas l'économiste que je suis le propose de le dire aussi clairement que ça. Toute illusion selon laquelle la démocratie serait produite de manière endogène par le développement économique, par l'alphabétisation, etc., et qu'il n'y aurait qu'à attendre que ça se passe tout seul, c'est évidemment une imposture intellectuelle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça d'ailleurs que ça a passé en Europe. On a vu des phases de prospérité en Allemagne avant la Première Guerre mondiale qui n'ont pas du tout débouché justement sur ce processus, mais ont débouché sur la crise. C'est donc bien à la démocratie de produire ses propres institutions pour être forte et pas faible, être capable de se prendre en charge elle-même collectivement. Et en même temps, la démocratie, je dirais, n'est pas une mauvaise fille. Elle n'est pas très exigeante, beaucoup moins exigeante qu'on ne croit. Ce matin, on avait un débat avec Christian Baudelot sur l'école de la République et toutes les impostures qu'on entend en France. Je ne vais pas reprendre tout le débat sur l'idée qu'on aurait une méritocratie républicaine. C'est évidemment exactement le contraire. Dans les comparaisons internationales, la France est le pays qui a le taux d'endogamie sociale dans la reproduction des élites le plus fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays où la dépendance de l'origine sociale des parents sur la réussite scolaire des enfants soit aussi forte qu'en France. Donc c'est évidemment un échec absolument extraordinaire. Et en même temps, ce que disait Christian Baudelot m'a paru très intéressant. Et à l'image de ce travail sur les mots dont on parlait tout à l'heure, il disait, lorsque Sciences Po a réussi son opération d'aller vers les ZEP et d'offrir des débouchés à Sciences Po pour les élèves méritants, bon, ça a été indiscutablement une bonne chose pour ces élèves eux-mêmes. Mais l'effet premier, il n'est pas là. Il est sur l'école, elle, d'où sont tirés ces élèves, qui, tout du coup, a vu une lueur d'espoir, s'est mis à mieux fonctionner, mieux travailler, parce que tout d'un coup, on ouvrait la fenêtre, on donnait l'espoir que ça devienne possible. Et Christian opposait ça à la réalité sociale elle-même, qui est celle que je disais. L'ascenseur social, disait-il, n'est pas en panne, il n'a jamais fonctionné. Et la démocratie n'a pas le même besoin, la même exigence que le sociologue de vérifier que ça marche, qu'il y a bien de l'exogamie sociale. Elle a simplement besoin qu'on y croit, qu'on donne des possibilités et que les institutions fassent comme si elles pouvaient fonctionner pour que ça marche. Alors évidemment, après, il y a un devoir de résultat. Il ne suffit pas que ça soit uniquement dans l'apparence. Mais ce qui est en train de se perdre aujourd'hui, c'est cet espoir, c'est cette espérance que, pour reprendre le titre, le premier livre de la République des idées, je crois, l'égalité des possibles, que ça soit au moins possible d'y croire. Et c'est ça qui est en train de disparaître aujourd'hui. Alors, dans l'ensemble des débats, il y en a un, évidemment, auquel j'étais particulièrement sensible, c'est celui qui tourne autour de la démocratie sociale. Celui où ont participé François Chérec, Philippe Askenazy et Dubé sur la question de savoir tout simplement où est-ce qu'on en était aujourd'hui de cette exigence de démocratie sociale qui est le corrélat nécessaire de la démocratie. Je parlais de la Chine tout à l'heure. L'Inde, dont on a moins parlé, je crois, cette fois-ci, est une grande démocratie. Et par tous les critères formels, c'est une démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des élections, la presse est libre et ne se prive pas d'accuser le gouvernement. Il y a une alternance. Le parti du Congrès gagne, perd, retrouve les élections. Donc il y a aucun doute possible qu'à tous les niveaux formels, c'est une démocratie. Mais ça n'est pas une démocratie sociale. Quand on regarde le taux de mortalité infantile, le taux d'illettrisme, l'Inde est au niveau de l'Afrique. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas passé ce seuil. Ça a été très bien étudié par Jaffrelot dans l'Inde, la démocratie par la caste, dans lequel il montre qu'elle n'arrive pas à embrayer sur l'exigence normale d'une démocratie qui est de passer d'une exigence formelle à une exigence réelle qui est de rendre possible l'égalité des chances et l'égalité des possibles. Et la démocratie sociale aujourd'hui est en crise par l'école, j'en ai dit quelques mots, mais elle est en crise sur le terrain où elle s'exerce normalement, c'est-à-dire sur le terrain de l'action syndicale, sur le terrain de ce qu'on a appelé à un moment en Allemagne l'économie sociale de marché, qui là a disparu. Elle a disparu en 20 ou 30 ans. Parce que le capitalisme a changé de base, changé de socle, je pense qu'on peut dire, en réponse justement à ce que la lutte des classes dans les années 60 avait produit. Le capitalisme, pardon, s'est entièrement repensé pour ne plus laisser de prise possible à ce qui était, dans les années 50 et 60, le pouvoir de négociation des salariés. C'est-à-dire qu'il a scientifiquement désintégré verticalement, comme disent les économistes, la chaîne de production et de valeur, en éparpillant la production partout sur le territoire. Il ne s'agit pas de la mondialisation, cet éparpillement, ce recours absolu, total, à la sous-traitance, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les domaines d'activité, même ceux qui ne font pas l'objet d'échanges internationaux, dans la presse, dans tout ce que vous voudrez. Ici, il y a sûrement beaucoup de sous-traitants, d'intérimaires de partout. Et c'est ça qui rend quasiment impossible aujourd'hui l'exercice de la démocratie sociale, parce que justement, il n'y a plus d'interlocuteur. Je crois que François Chérec faisait cette observation, que s'il y a séquestration des patrons, ce qui est évidemment une abomination, mais c'est en partie parce qu'on veut la présence physique des patrons, et on ne les voit plus. On est dans un monde sans interlocuteur parce que tout est éparpillé, les décisions sont prises ailleurs. Et François Chérec nous racontait aussi l'anecdote du matin même où il est venu hier à cette conférence d'un employé, non pas de la SNCF, mais travaillant pour une entreprise travaillant pour la SNCF et expliquant qu'il travaillait avant pour Carlson Wagonlit, qui était un des sous-traitants auquel la SNCF demandait de faire des sandwichs de restauration dans les trains, et puis parce qu'une autre entreprise a offert un meilleur rapport qualité-prix, la SNCF a choisi cette autre entreprise, et la personne disait, mais les conditions sociales se sont totalement dégradées, parce que ce meilleur rapport qualité-prix, c'est nous qui le payons, c'est nous qui vous l'offrons. Et évidemment, bon, c'est évidemment une situation tragique en soi, mais c'est aussi une extraordinaire métaphore de ce qui se passe. C'est-à-dire, la SNCF, oui, dans son précaré, peut dire qu'elle a du dialogue social, etc. Mais simplement, les problèmes sociaux sont externalisés, sont en dehors du champ d'entreprise. Il racontait aussi l'expérience de PSA, qui peut parfaitement répondre au président de la République, oui, nous garderons nos emplois en France, mais les emplois qui restent à PSA, en sachant que, justement, ça n'engage plus du tout l'ensemble des sous-traitants qui travaillent pour PSA. Et il allait jusqu'à pousser cette métaphore, qu'on se demande presque ce que font les entreprises, les constructeurs automobiles. Tout est externalisé, y compris l'assemblage des pièces qui, il y a peu de temps encore, étaient faites par les entreprises d'automobiles elles-mêmes, mais de pièces qui n'étaient plus fabriquées par elles-mêmes. Donc on est aujourd'hui sur un petit noyau. Une usine comme Renault fabrique 20% de la valeur de la voiture qui est vendue au consommateur final. Il y a 30 ans, c'était l'inverse. Elle fabriquait 80% de la valeur de la voiture. Il n'y avait que 20% qui était externalisé. Donc on est dans une situation où la démocratie sociale n'a plus de prise possible parce que justement, et là encore, je crois qu'on peut dire scientifiquement, le capitalisme s'est organisé pour bénéficier de toutes sortes de choses, mais essentiellement pour rendre impossible cette chose-là. Et le résultat, d'ailleurs, ne s'est pas fait attendre. On voit dans toutes les statistiques la fin de l'inflation salariale. On voit une beaucoup plus grande volatilité. C'était Philippe Askenazy qui en faisait l'observation des rémunérations, parce que justement, il n'y a plus de force de rappel, il n'y a plus de force de rééquilibrage. Et on est dans une situation totalement paradoxale, qui est que dans le rapport capital-travail aujourd'hui, alors qu'on a toujours l'idée, en tout cas depuis Hegel, transformée en théorie du salariat, que le salarié échange sa liberté en quelque sorte pour de la sécurité, c'est l'inverse maintenant. C'est-à-dire que la sécurité, elle n'est plus du côté du salarié. C'est lui qui vit toutes les incertitudes, qu'on fait exemple de la SNCF dont je parlais, c'est lui qui vit les incertitudes du monde industriel, et à l'inverse, d'une certaine façon, le capital peut lui diversifier ses risques en combinant des portefeuilles divers d'actions et de titres qui fassent qu'aujourd'hui, justement, et en diversifiant son portefeuille de sous-traitants, eh bien, il est protégé du risque. Et ce sont les salariés qui ne le sont pas. Et le débat sur les stock options, les golden parachutes, etc., témoigne de ça. On voit que le capital se protège et que le prix de cette protection, c'est l'absence de protection qui est donnée aux salariés qui sont en face. Et pour revenir sur le thème de la démocratie, l'effet collatéral de tout ça, encore une fois, l'effet peut-être voulu, plus que collatéral d'ailleurs, c'est qu'on ne sait plus où exercer cette démocratie sociale. On ne sait plus par quel bout le prendre. On peut toujours, dans quelques grands groupes, se mettre à penser qu'il y a une régulation sociale qui est possible, mais elle laissera, en dehors du champ de cette régulation sociale, tous les sous-traitants, tous les intérimaires. Philippe Askenazy rappelait que la France est le troisième pays en masse consommateur d'intérimaires, ce qui montre exactement l'ampleur du défi qui mérite d'être relevé. Alors, C'est quoi les messages d'espoir? Comment faire pour en sortir? C'est très compliqué. C'est pas évident parce que, encore une fois, on n'est plus du tout dans la situation où un grand syndicat puissant aux usines Renault pouvait faire pression sur un patron qu'il identifiait bien, avec lequel il pouvait avoir des rencontres régulières et fixer des normes qui pouvaient s'appliquer pour toute la société. Dans les usines Renault des années 50-60, il y avait des ingénieurs, des contremaîtres, des ouvriers. Et ce qu'on fixait aux usines Renault devenait une maquette de la négociation sociale partout ailleurs. Il y avait comme une externalité sociale positive à ce type de négociation. Maintenant, c'est exactement le contraire. Donc comment faire pour en sortir, c'est très complexe. D'abord, il est certain que le syndicalisme doit être réinventé, il doit être tertiarisé. Hein. On en parlait aussi avec Baudelot sur le problème de l'école en France aujourd'hui. C'est une école qui a formé les élites de la première et de la deuxième révolution industrielle. Elle n'arrive absolument pas à se tertiariser, c'est-à-dire à comprendre le type de savoir, de connaissances qui sont nécessaires dans le type de société dans lequel on est aujourd'hui, de connaissances ouvertes, flexibles. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les élèves français ont beaucoup de mal aux tests internationaux, parce que les tests internationaux ne demandent pas de répéter le programme, mais demandent de lire un livre et de dire ce qu'il y a dedans. Et on ne sait pas le faire. On sait réciter la leçon, la dictée, mais on ne sait pas. Nos élèves ne savent pas lire un livre et dire succinctement ce qu'il y a dedans. Et donc, à cet âge de la tertiarisation où tout est plus complexe parce que éparpillé, parce que chaque situation semble singulière et donc ne se prête pas à un moule de négociation sociale, il faut inventer, il faut innover. On est d'une certaine façon devant une page blanche. Alors, Philippe Askenazy, toujours lui, dans son livre Les désordres du travail, publié à la République des idées, avait montré quelques pistes comment aux États-Unis un mélange de mise en ligne publique d'informations données volontairement par l'État sur telle et telle entreprise avait pu faire régresser les accidents du travail, couplé avec un syndicalisme pour les personnels d'entretien qui avait été totalement renouvelé, couplé aussi évidemment avec la pression du plein emploi qui avait rendu les entreprises qui avait obligé les entreprises à se soumettre à un certain nombre d'impératifs sociaux. Tout ça avait fait que les accidents du travail avaient considérablement régressé aux États-Unis dans les années 90. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est justement toute la combinaison de facteurs qu'il faut mettre en place. Il faut une démocratie d'opinion. Hein, c'est en fustigeant les accidents du travail de certains types d'entreprises et en les mettant sur la place publique, mais on les oblige à réagir parce qu'ils vont perdre leurs clients, tout simplement. Si ça se fait savoir, réinventer avec un syndicalisme de proximité. Dans le cas de la France, on a eu un grand débat qui est tombé d'un coup comme une pierre, je ne sais pas très bien pourquoi. C'était le débat sur la flexi-sécurité. On avait beaucoup parlé du modèle danois. Modèle danois qui, je le rappelle, permet à un ouvrier licencié, un employé licencié, en tout cas en deçà d'un certain seuil de salaire, de gagner pendant 4 ans le salaire antérieur, pour lui donner le temps de se reformer, enfin donc donner un horizon de reconstruction d'un destin. Bon, c'est évidemment très exigeant. On se doute qu'en France, ça ne serait pas possible de le faire comme ça, parce qu'on n'a pas armé, on n'a pas les institutions qui permettraient de le faire, mais c'est justement ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à imaginer comme possible une protection comme celle-là, qui marche très bien au Danemark et qui permet d'avoir le plein emploi, aucune inflation salariale, enfin aucun des mots auxquels on peut associer une proposition comme celle-là ne s'est manifesté au Danemark, mais la feuille blanche devant laquelle on est en France pour se saisir jusqu'au bout de questions comme celle-là montre aussi où on en est. Et puis François Chérec a abordé une autre proposition. Elle est restée un peu dans les limbes, mais je trouvais qu'elle méritait qu'on en reparle et peut-être qu'on voit ce qui peut en être fait. Il disait les salariés n'ont aucun pouvoir dans l'entreprise. Bon, les raisons que je viens de dire, et pourtant les entreprises dépendent des aides publiques dans des proportions tout à fait considérables, puisque les exonérations de charges représentent plus de 20 milliards en France sur les bas salaires, et au fond c'est un peu une créance indirecte du salarié citoyen sur l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas manière de convertir ça peut-être en une exigence de représentation, enfin c'est moi qui le dis maintenant, des salariés au conseil de surveillance. Il y a quelque chose, il y a des instruments qui doivent être réinventés pour faire que cette démocratie sociale, qui est absolument essentielle, puisque au fond c'est ça qui compte, je reprends ce que je disais de l'un de tout à l'heure, et bien puisse exister. Merci.
Merci Daniel.
Leslie, un petit rebond ?
Non, mais je trouve qu'il y a... Enfin bon, la question... question de la démocratie sociale et de comment le capitalisme s'est débrouillé pour externaliser les conflits et vraiment la dépossession même de où est le patron, quoi. Bon, enfin, dont on a parlé à la table ronde, moi je trouve que c'est certainement au cœur de ce qu'il faut réinventer. Enfin, ça, je ne peux que être d'accord et bon, voilà, essayer de penser à ça.
Oui, moi j'ai deux. Tes remarques m'en suggèrent deux. La première, à propos de la comparaison que tu as faite entre l'Inde et la Chine, c'est qu'effectivement, on peut dire que la démocratie, ça n'est pas simplement des institutions, mais la démocratie, c'est une culture de l'appropriation civique. Et évidemment, on ne peut pas parler de la démocratie de la Chine comme un régime démocratique, mais on peut montrer comment il y a des formes d'appropriation civique. Qui construisent, disons, une culture, une demande, un esprit démocratique. Et cette question, elle est importante chez nous aussi. Parce que, bien sûr, il y a des institutions démocratiques à rénover, mais qu'il y ait cette culture permanente de l'appropriation me semble quelque chose de très, très important. Et le fait de considérer des exemples, tu as eu raison de souligner, comme la Chine, nous aide aussi à prendre conscience de ça. On ne peut pas se contenter de nous satisfaire, si je puis dire, de la comparaison, évidemment, à notre avantage, même si elles sont insuffisantes, si nous considérons les institutions. Et puis sur la démocratie sociale, ben je crois que c'est un nouveau programme qui s'ouvre. Quand on regardait à la fin, je suis très frappé qu'à la fin du 19e siècle, au moment même où il y a, je dirais, le grand mouvement qui va conduire à la généralisation du suffrage universel, mais immédiatement, il y a à la fois toute une série de publications pour aller plus loin sur le terrain de ce qu'on appelait à l'époque la démocratie industrielle. C'était un terme qui était très, très commun, par exemple, en Angleterre, ou qui était commun en Allemagne, avec cette idée exprimée par la phrase fameuse « on ne peut pas avoir la démocratie dans la République quand on a encore la monarchie dans l'atelier ». Et je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes à ce point-là, où il faut refaire ce lien qui avait été, au fond, la grande question de la fin du 19e siècle. Enfin, là, ça prouve bien à quel point cette séance n'est pas une séance de conclusion, mais le côté, c'est pas simplement panier repas, c'est mal de voyage, hein, là, qu'on prépare. Bon, moi, je vais aussi donc faire part de quelques-unes de mes réflexions. J'ai aussi beaucoup circulé dans les différents ateliers. Je suis d'accord avec Daniel, le fait de ne pas pouvoir assister à tout n'était pas mauvais, parce qu'on passait son temps à demander alors comment c'était dans ton atelier, et d'avoir quelqu'un qui est capable, enfin, qui essaie de vous dire en quelques minutes quel est le point ou les deux points qu'il a trouvé le plus important, c'est toujours assez, assez intéressant. Et en suivant ces ateliers, moi j'ai d'abord trouvé qu'avait lieu, au fond, ce qui est un petit peu le principe de ces rencontres, c'est-à-dire le principe de rencontre entre des intellectuels impliqués et des citoyens actifs. Donc, qui a fonctionné parce qu'il y avait aussi le café des auteurs, parce qu'il y avait aussi, c'est l'avantage formidable de cet équipement qu'est la MC2, c'est que ce ne sont pas simplement des salles où l'on se réunit, mais que c'est aussi un espace où l'on circule, où la conversation, la discussion a lieu un peu en permanence, et c'est pour ça que j'ai un attachement personnel, physique presque, si je puis dire, à ce lieu. Et au fond, les quelques remarques que je voudrais faire, c'est pour dire quelques idées à creuser et quelques simplifications à écarter. Parce qu'au fond, quand on vient d'écouter un certain nombre de tables rondes, je crois qu'il est un constat que tout le monde peut faire, c'est que si certaines idées s'éclaircissent, il y a aussi des perplexités qui augmentent. Mais le fait que des perplexités augmentent, c'est bon signe, parce que ça veut peut-être dire qu'il y a des idées reçues qui diminuent. Donc, considérons cela comme une forme de progrès. Alors, je dirais, quant à moi, très simplement, deux petites séries de remarques. La première, c'est ce qui m'apparaît comme un certain nombre de fausses distinctions à dépasser et que j'ai trouvé venir de façon répétitive. La première, c'est entre la vision nationale et internationale de la démocratie. Trop souvent, on le considère comme un espèce de jeu à somme nulle à partir de l'idée de souveraineté. Si évidemment la démocratie s'identifie à une idée de la souveraineté comme un bloc, quand une souveraineté augmente à un niveau international ou même européen, eh bien elle diminue à l'autre. Mais si on essaie de déconstruire un peu l'idée démocratique, comme d'une façon informelle, on l'a fait un peu en permanence pendant ce colloque, on peut très bien dire qu'une démocratie des droits, elle peut progresser partout, en jeu à somme positive et pas en jeu à somme nulle. On peut dire aussi tout à fait que des formes de démocratie de régulation peuvent progresser partout, parce que la question de la régulation, ce n'est pas simplement même le national ou l'international, c'est le développement généralisé de la régulation. Et les réflexions qu'a fait Laurence Fontaine me semblent extrêmement précieuses à cet égard, pour montrer comment l'histoire du marché est une histoire très longue, qui est toujours celle d'une histoire de la régulation, y compris celle sur les marchés les plus archaïques, les foires d'autrefois, de la vérification des poids et des mesures, par exemple, ou de la qualité des textiles. Et donc là, on a quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui permet aussi d'envisager, me semble-t-il, la question de la démocratie comme un combat généralisé. On pourrait presque dire qu'il faut aller vers une démocratie généralisée. Ça ne veut pas dire une démocratie qui serait celle de la projection au niveau international du système électoral représentatif, mais de la déclinaison à tous les niveaux des formes les plus pertinentes, des droits, de la régulation ou de la redistribution. Parce que c'est bien les trois formes de démocratie. Démocratie des droits, démocratie de la régulation, démocratie de la redistribution, mais bien sûr, ça, la démocratie de la redistribution, elle est essentiellement au niveau national. On l'a dit dans le débat qui était le débat sur la régulation mondiale, parce qu'il n'y a pas d'impôt international et qu'il y a un consensus pour ne pas passer à l'impôt. Or, on peut dire que ce qui a marqué le grand tournant des sociétés modernes, c'est quand on est entré dans l'impôt redistributeur. C'était ça la date symbolique, quand l'impôt n'a plus simplement été une contribution proportionnelle au financement de services communs, mais quand elle est devenue un instrument de construction de la nation, pour faire très vite. Deuxième fausse distinction à dépasser, c'est l'individuel et le collectif. Nous vivons tout de même dans un univers où on ne cesse d'opposer l'individualisme comme une sorte de péché de la pensée et de la société en même temps, et une évocation, à vrai dire, un peu vague, d'une communauté ou d'une collectivité. Je crois qu'au contraire, l'histoire même des révolutions modernes, c'est ce qu'enseigne, me semble-t-il, l'histoire de la Révolution française et l'histoire de la Révolution américaine, c'est que s'approprier le monde, c'est en même temps se constituer soi-même en sujet autonome et être capable, à cette condition, d'entrer vraiment dans une société de citoyens. Le citoyen ne peut pas exister s'il n'est pas indépendant. Je crois que cette réflexion sur les conditions de l'autonomie et de l'indépendance, elle est ouverte devant nous aujourd'hui dans des termes qu'il faut véritablement renouveler. Dans le débat politique anglo-saxon, il en était question dans une table ronde, on oppose volontiers les principes de la reconnaissance qui seraient en progression, parce que dans bien des termes, on peut dire qu'il y a progression de la reconnaissance, mais recul de la redistribution. Mais je crois aujourd'hui qu'il faut trouver les moyens de montrer que la démocratie définie comme une appropriation du monde présuppose en même temps la reconstruction de véritables individus indépendants. Parce que cette notion d'indépendance des individus, elle est clé dans le travail et dans la société. Daniel, tu as insisté sur ce plan-là, mais c'était aussi fondamental dans la table ronde à laquelle tu faisais allusion, la reconstruction de personnes indépendantes, même dans la table ronde sur les États-Unis, Sylvie Laurent a cité un texte de Marx où un jeune ouvrier qui était à San Francisco s'émerveillait du fait qu'il pouvait exercer des tas de métiers différents, qu'il était devenu indépendant par ce fait même, qu'il était un ouvrier total. C'est l'expression qui avait été employée par Marx dans cette correspondance. Et donc là, il y a à la fois un élément à travers cette notion positive d'indépendance à reconstruire un nouveau lien entre, je dirais, la nécessité de développement de l'autonomie des individus et la construction de la citoyenneté. Troisième fausse distinction à dépasser, elle était au cœur de la conversation entre Cécile Laborde et Charles Taylor à laquelle j'ai assisté tout à l'heure, c'est entre ce que Cécile Laborde appelait le républicanisme et puis le multiculturalisme, ou on pourrait le dire autrement, entre une certaine appréhension de la diversité, une certaine appréhension de l'homogénéité. Il ne faut pas oublier que l'idéal démocratique est né dans des sociétés profondément divisées.
L'idée de la liberté moderne, elle est liée à la nécessité de trouver des sorties des guerres de religion, de vivre ensemble dans des sociétés profondément divisées, dans lesquelles la division n'avait été que la voie vers l'anéantissement ou le séparatisme. Eh bien, la démocratie a été la forme de pensée, ce rapport commun au-delà de ces deux branches opposées du séparatisme ou bien du combat mortel. Et c'était déjà la même chose en Grèce. En Grèce ancienne, la naissance de la démocratie est née de la sortie des sociétés homogènes. La sortie des sociétés homogènes, c'est-à-dire des villages, etc. Il y a ce phénomène qu'on appelle les synécismes en grec, qui traduit justement ce mouvement par lequel se rassemblent des gens profondément différents. Et nous rentrons dans une période qui est à nouveau une période dans laquelle cette question prend une actualité nouvelle. Mais au lieu de la voir comme une menace, voyons-la comme la condition normale de ce qui était les modes d'invention de la démocratie. Et donc, c'est à nouveau un grand cycle d'invention de la démocratie qui s'ouvre à cause des termes mêmes de ce rapport entre la diversité et entre l'homogénéité. Et bien des économistes, bien des sociologues, d'ailleurs, réfléchissent aujourd'hui, on en a parlé dans plusieurs des tables rondes, à cette question de l'homogénéité et de la confiance, qui sont tout à fait parallèles. Donc voilà pour moi ce qui m'a frappé. Pour certains, je pensais déjà dans cette direction, mais d'assister aux tables rondes m'a assis dans cette conviction. Deux autres réflexions de méthode, très simplement. Deux choses m'ont frappé. Les ateliers démocratiques, d'abord. Je crois qu'effectivement, si l'idée de les organiser était bonne, et hélas, comme moi je devais circuler, je n'ai pas pu assister intégralement à l'un d'entre eux, mais j'en ai beaucoup parlé avec ceux qui avaient assisté. Je crois que nous avons besoin, d'un certain point de vue, d'école de la démocratie. Il y a beaucoup de choses fondamentales que l'on apprend, mais l'on n'apprend pas les formes de la démocratie. Donc il faudrait, d'un certain point de vue, des instituts technologiques de la démocratie pour essayer de mettre au point un certain nombre de techniques, et puis des écoles de la démocratie pour mieux les pratiquer. Et après tout, on introduit des cours d'instruction civique à l'école, mais on ferait des ateliers délibératifs. Peut-être qu'il faudrait trouver un autre mot plus simple. Sans doute, Marty Daniel, mais ça ne serait peut-être pas une mauvaise chose, et je crois que là, il y a quelque chose qui a été essayé ici. Patrick Vivret et Dominique Picard, qui les ont animés, sont, si je puis dire, des vieux routiers de ces formes d'expérimentation, mais il serait bon de leur donner de la publicité et pour aider à les institutionnaliser, en faire comme... on le disait à propos de l'expression d'Antoine Garapon, des institutions qui aient des dents. Effectivement, c'est une très bonne expression. Une deuxième réflexion, disons, de méthode que je me fais, c'est que je crois, c'est d'ailleurs une chose qui était dans l'entretien que Claude Lefort a donné juste avant pour annoncer le forum, non pas dans Le Monde, mais dans la revue Philosophie Magazine. Claude Lefort, qui est le critique du totalitarisme que l'on sait et qui s'est expliqué sur ce point-là ici, disait aussi, d'un certain point de vue, il ne faut pas que la critique radicale du totalitarisme ou des déviations du communisme nous fasse oublier cette idée d'une forme nécessaire d'utopie dans la société. Et ça, je crois que c'est très important. Et j'étais frappé du fait que cette réflexion sur l'utopie était au cœur de l'atelier auquel j'ai assisté et qui était fondamental, mais elle a traversé aussi d'autres ateliers. Bien sûr, pas l'utopie comme modèle, pas l'utopie comme chose qui descend d'en haut appliquée, ce qui était d'ailleurs l'histoire du mot utopie au XVIIIe, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. C'était véritablement ça. C'était le modèle imposé d'en haut. Non, mais on pourrait dire l'utopie comme une sorte d'horizon régulateur, c'est-à-dire le principe toujours d'ouverture des possibles et surtout d'ouverture des prisons de l'esprit et du conformisme, parce que c'est surtout ça. Et cette idée positive d'utopie, il faut se rendre compte qu'elle est décisive même dans l'idéal réformiste. Au fond, ce qui a été un obstacle pendant toute une partie du XIXe siècle, enfin, vers les années 1880, il y a un moment très sensible, à la formulation justement de cette voie alternative, je dirais, au capitalisme tel qu'il existait. C'était une forme d'utopie dans laquelle, une utopie dans laquelle on s'enfermait, une utopie qui était bloquante. Et effectivement, si l'on pensait, prenant des gens comme Cabé, si l'on pensait que la bonne société, c'était simplement un modèle qu'il fallait appliquer, ben, tant que l'autre ne s'était pas définitivement effondré, eh bien, ce n'était même pas la peine de se poser la question de sa transformation. Donc, on raisonnait simplement en termes d'effondrement et d'avènement d'un nouveau modèle clé en main. Et c'est à travers la critique de ces utopies que j'appellerais de la fermeture, de ces utopies de la clôture, qui a été menée dans le mouvement ouvrier de façon très précise dans les années 1880. Tous ceux qu'on appelait les socialistes universitaires, disons de la chaire en Allemagne, ils ont mené la bataille sur ce terrain-là. C'est exactement sur ce terrain-là aussi qu'ont mené en Angleterre la bataille des gens comme Hobhouse ou comme Green ou comme Hobson, ceux qu'on l'appelait, mais avec le langage anglais de l'époque, les nouveaux libéraux. Une troisième et dernière chose, enfin, c'est que est revenu plusieurs fois dans les débats la question du désenchantement démocratique. Et la réflexion sur les termes, les conditions dans lesquelles on pouvait, non pas dépasser, mais essayer justement de sortir dans cet enfermement, dans le désenchantement démocratique. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à plusieurs reprises, une idée est apparue très fortement, c'est que la façon de lutter contre le désenchantement, c'était de ne plus subir de façon passive le monde. Et au fond, ne plus le subir de façon passive, c'est d'abord mieux le connaître. La connaissance, c'est tout simplement un élément de maîtrise du monde. Quand on a le sentiment de désenchantement, il provient d'un sentiment de désappropriation qu'on n'a plus prise sur les choses. Mais la connaissance est un élément, est une forme de prise sur les choses. Il n'y a pas simplement une prise sur les choses à travers une idée qui serait abstraite de la volonté, qui pourrait s'appliquer sur le monde et le modeler. La compréhension du monde, c'est déjà une façon de la modeler. Et à l'inverse, l'incompréhension du monde, eh bien, c'est aussi, comme on le sait, le sommeil de la raison qui engendre les monstres. Et cela, c'était d'ailleurs une idée fondamentale de celui qui est un de mes personnages favoris, que j'ai cité plusieurs fois, je me rends compte au moins une fois dans cette conclusion, de la Révolution, qui est Condorcet. Justement, c'est que l'intelligibilité est le début de la constitution de la volonté générale. Donc, si nous ne sommes pas les maîtres des résultats des élections, nous sommes au moins les maîtres de l'intelligibilité que nous produisons et que nous construisons du monde. Voilà les quelques réflexions que je me suis faites. Alors, puisqu'on ne peut pas faire des rebonds éternels, puisque chacun va faire ses petits rebonds personnels maintenant, je voudrais terminer aussi, ça n'est pas simplement des formules classiques de politesse, mais je crois qu'il y a beaucoup de participants aussi qui sont venus de très loin, qui sont venus de l'étranger même, qui sont venus de province, et je crois que les premières personnes à remercier, ben, c'est d'abord tous ceux qui ont fait l'effort de venir et de province. Alors là, vraiment. Tous ceux qui ont fait l'effort de venir de Paris, bien sûr. Merci aux Parisiens. Vous avez raison de siffler. Et puis, tout particulièrement aussi, tous les intervenants. Il y a une centaine d'intervenants qui sont venus. Souvent, ils ont annulé des projets de week-end pour venir. Et donc, vraiment, je les remercie. Les remercie tous. Et puis, pendant que nous étions dans les salles, pendant que nous étions dans les couloirs, moi, j'ai beaucoup aussi été dans les coulisses, dans les sous-sols, etc. Et ce qui nous a fait vivre, si je puis dire, pendant ces 3 jours, c'est aussi parce que il y a tous les techniciens de régie, il y a tout le personnel de la MC2 qui était mobilisé sur le pont, mobilisé et je le sentais en permanence, curieux, impliqué, participant. Donc vraiment, merci à eux, ils étaient dans les coulisses, mais nécessaires. Et puis je voudrais aussi remercier spécialement l'équipe élargie de la Vie des Idées. Parce que cette équipe de la Vie des Idées, c'est celle qui anime le site lavidesidées.fr, qui rencontre de l'actualité intellectuelle, des livres. Mais elle ne s'est pas contentée ici de venir pour animer ce qui était sa tâche principale, le café des auteurs. Puisqu'en effet, l'ensemble des membres de l'équipe élargie de la Vie des Idées se sont fait aussi animateurs, chauffeurs, accompagnateurs, teneurs de micro, et au fond, ils ont donné la bonne définition de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est à la fois celui qui écrit des bouquins, mais celui qui reste les pieds collés au terrain. Et là, ils ont vraiment été collés au terrain. Merci à eux. Et puis pendant que pour nous, le grand sujet, c'était de regarder l'affiche, de savoir où était le débat qui nous intéressait ou de décider celui auquel nous allions aller, parce qu'un certain nombre d'entre nous avaient pris plusieurs billets pour décider au dernier moment. J'ai remarqué ça à plusieurs reprises. Eh bien, il y avait toujours quatre personnes qui étaient sur le pont et la passerelle et qui faisaient que tout puisse bien fonctionner. Donc c'est vraiment ces quatre personnes qui ont été l'âme de ces trois journées, qui ont été en permanence sur le pont. Moi, dès que j'avais un problème, c'était un des quatre que je contactais. C'est Marine Alix, de la municipalité. Leïla Dakli, de la République des Idées. Florent Guénard, le secrétaire général de la République des Idées. Et bien sûr, Michel Aurier, le patron de la maison. Eh bien, bonne fin de week-end à tous, et puis j'espère que votre panier repas est bien plein maintenant.